بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، سسيدي بخير الله سبحانه وتعالى للونج تاع الله de nous avoir permis de se retrouver dans la mosquée Al-Ghuraba, dans la ville de Tulin. Et je demande du souverain des mondes, subhanahu wa ta'ala, de combler de sa miséricorde tous ceux qui sont à l'origine de cette invitation pour ce noble mois de Ramadan. Je souhaite à vous qui êtes présents dans la mosquée la bienvenue, ainsi qu'aux auditeurs et auditrices sur les ondes de la radio Taqwa. Et notre assise ce soir, Inch'Allah, a pour titre « Comment accueillir Ramadan ?» Je demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de par ses sublimes noms et ses nobles attributs de nous permettre de vivre ce mois de Ramadan et d'y accomplir toute œuvre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, aime et agrée. Ce sujet est inspiré de certaines leçons que certains étudiants ont extrait des explications de Cheikh Mustafa Mbram concernant le jeûne. Et Cheikh Mustafa Mbram est un grand élève de Cheikh Muqbil rahmatullah alayh, et il est à Riyad, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Ceci dit, écoutez cet appel de notre souverain subhanahu wa ta'ala. Qala azza wa jal: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. Dans la traduction approximative du sens de ce verset, il est dit: Ô vous qui croyez, répondez à Allah et au messager lorsqu'il vous appelle à ce qui va vous assurer une bonne vie. Nous devons remarquer ici, frères en Allah subhanahu wa ta'ala et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons remarquer dans cet appel qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait, dans lequel il s'adresse aux croyants: Ô vous qui croyez, Ya ayyuha alladhina amanu. Pourtant, ces croyants sont vivants. Et il a dit subhanahu wa ta'ala: ce qui va vous assurer une bonne vie. Car la bonne vie, frère en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celle du cœur, celle qui est basée sur la foi et sur la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la foi et la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala qui fait vivre pleinement une vie apaisée. Sa'di rahimahullah, dans l'explication qu'il a fait du Coran concernant ce verset, nous dit: le Très-Haut, subhanahu wa ta'ala, ordonne à ses serviteurs croyants ce qu'implique la foi de leur part, à savoir de répondre à son appel et celui de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire se soumettre à ce qu'ils ont ordonné, et à ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, et son messager ont ordonné, en prenant l'initiative de faire cela, et en appelant les gens à faire de même, en évitant aussi ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager ont interdit. Et on met en garde les gens contre cette perspective. Il a dit, rahimahullah ta'ala, concernant lorsqu'il vous appelle à ce qui vous assurera une bonne vie, il a dit, c'est une description adéquate de tout ce à quoi Allah et son messager appellent, ainsi qu'une clarification de l'utilité et de la sagesse de cet appel. En effet, la vie du cœur et de l'esprit n'est possible qu'avec l'adoration d'Allah et l'obéissance à son messager en permanence. Ensuite, il dit, rahmatullah alayhi, ensuite Allah met en garde contre le refus de répondre à son appel et à celui de son messager, alayhi salatu wassalam. Fin de citation des paroles de Saadi, rahimahullah. On voit bien que la réelle vie est dans le fait d'être soumis à Allah, subhanahu wa ta'ala, de mettre en application ce que Allah, subhanahu wa ta'ala, a ordonné et ce que le messager a ordonné, alayhi salatu wassalam. Ibn Abi Hatim, rahimahullah, rapporte dans son tafsir qu'Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, l'agré, a dit, quand y entend Allah dire, « Ya ayyuhal ladina amanu, ô vous qui croyez, sois attentif à cet appel, car c'est un bien qu'Allah va t'ordonner, ou c'est un mal qu'Allah subhanahu wa ta'ala va t'interdire. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a associé le jeûne avec cet appel. Il a dit, « Ya ayyuhal ladina amanu, kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladina min qablikum la'allakum tattaqoun. » Il est dit dans le verset, « Ô vous qui croyez, le jeûne vous a été prescrit, comme il a été prescrit pour ceux qui vous ont précédés, afin que vous préserviez les droits d'Allah. » Saadi, rahimahullah, nous dit concernant ce verset, « Allah, azza wa jal, informe ses serviteurs du don qu'il leur fait avec l'obligation du jeûne, comme il l'a fait obligatoire pour les communautés précédentes, car il s'agit là d'une obligation religieuse utile et avantageuse pour les gens en tout temps. Cette obligation permettra ainsi à cette communauté de concurrencer autrui dans les œuvres du bien. Et il a dit, rahimahullah, aidant les nobles vertus. Et il a dit, rahmatullah alayhi, il ne s'agit pas d'une obligation difficile dont la communauté a l'exclusivité en dehors des autres communautés. Il dit, rahmatullah alayhi, Allah a montré ensuite le but de l'obligation du jeûne dans le verset où il dit, la'allakum tattaqoun. Ainsi vous allez préserver les ordres d'Allah. En effet, le jeûne constitue un des plus grands moyens pour préserver les droits d'Allah et se préserver de son châtiment, subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il consiste en l'obéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala, et en l'abandon de ses interdits. Fin de citation de la parole de Saadi, rahimahullah, concernant ce verset. Taqwa, qui, dans la fin du verset, ya ayyuhal ladina amanu, كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون التقوى c'est un mot synthèse qui englobe tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné qu'il faut accomplir avec l'espoir d'avoir la récompense et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui englobe aussi le fait tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de quel il faut s'éloigner, il ne faut pas s'en approcher, en ayant peur du châtiment d'Allah, Azza wa Jal. Et taqwa, c'est aussi faire une barrière entre toi et la colère d'Allah, Azza wa Jal, en mettant en application ses ordres et en s'abstenant de ce qu'il a interdit. Et vu la noblesse et les mérites du mois de Ramadan, nous devons en tant que soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, lui réserver un accueil particulier. Parce que c'est une saison particulière. Et comme il a dit Saadi rahimahullah, c'est un don qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait. Et parmi les premières choses avec lesquelles on doit accueillir ce mois de Ramadan, c'est la préparation au niveau de la foi. La foi qui motive et qui pousse le soumis à Allah subhanahu wa ta'ala à répondre à l'appel d'Allah. Concernant tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné et tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Et tout ce que son messager a ordonné et tout ce que son messager a interdit. Alayhi salatu wassalam. Le croyant doit toujours avoir à l'esprit que quand le souverain subhanahu wa ta'ala l'appelle, et quand le messager du souverain subhanahu wa ta'ala l'appelle, il doit répondre à l'appel d'Allah et à l'appel de son messager, alayhi salatu wassalam. Le soumis à Allah subhanahu wa ta'ala de par sa foi, doit se préparer à mettre en application l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et s'abstenir de ce qu'il a interdit. Et on doit méditer comment la foi, il est liée au jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala, il a lié. Le verset, il dit, « Ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam. » Ou vous qui croyez, il vous a été fait obligatoire le jeûne. Mais dites, comment le messager aussi a lié aussi entre la foi et le jeûne. Dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, selon Abu Hurayra radiyallahu anhu arda, le messager d'Allah a dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi en Allah, espoir en la récompense d'Allah, verra ses péchés passés pardonnés. Et selon Abu Hurayra radiyallahu anhu arda, le messager d'Allah a dit, celui qui jeûne Ramadan avec foi et espoir en la récompense d'Allah verra ses péchés passés pardonnés. Et celui qui veille en prière la nuit du destin avec foi en Allah et espoir en la récompense d'Allah verra ses péchés passés. Regardez comment dans le verset Allah a lié entre la foi et le jeûne et regardez comment Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a fait aussi dans ses hadiths. Hein? Et les péchés, bien sûr, qui vont être pardonnés aussi, ce sont les petits péchés. Quant aux péchés capitaux, ils ont besoin de repentir spécifique. Quand le soumis à Allah subhanahu wa ta'ala se prépare pour l'accueil de Ramadan, en ayant à l'esprit qu'il est croyant et qu'il est soumis à Allah, en mettant en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et en s'abstenant de ce qu'il a interdit subhanahu wa ta'ala, ceci, c'est la réalité de la foi. Haqiqatul iman. M'titan awamir wa jinab nawahi. La réalité de la foi, c'est le fait de mettre en application les ordres d'Allah et de s'abstenir de ce qu'il a interdit. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne beaucoup de versets. Certains versets se terminent par cette phrase. Après qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne des choses ou interdit des choses, il termine le verset en disant « In kuntum mu'minin » si vous êtes croyants, après avoir énoncé certains interdits ou certains ordres, et à la fin il termine « si vous êtes croyants ». Donc la première des choses avec laquelle on doit accueillir Ramadan et toutes sortes d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'avoir tout le temps à l'esprit qu'on est des croyants soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'on doit mettre en application ses ordres selon nos capacités et s'abstenir de ce qui nous a interdit. Et c'est pas tout simplement s'abstenir, c'est s'éloigner de tous les moyens qui vont nous rapprocher de ce qu'il a interdit. Subhanahu wa ta'ala. Cette foi doit toujours être présente dans notre esprit. Et doit toujours être présente pour nous motiver à entreprendre le bien et à s'abstenir du mal. Et parmi les choses importantes avec lesquelles on doit accueillir ce noble mois de Ramadan, c'est la détermination véridique pour l'accomplissement des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour s'abstenir de ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit. Cette détermination véridique permettra aux croyants d'accomplir ce qu'il faut accomplir et de s'abstenir de ce qu'il doit s'abstenir sans faire attention à l'ordre donné, s'il est du domaine de l'obligation ou s'il est tout simplement du domaine du surrogatoire qu'il est préférable à faire, qu'il peut faire ou ne pas faire. comme il ne doit pas prêter attention à l'interdiction, s'il est formellement interdite, ou alors il est tout simplement détestable à faire ou à dire. Mais cette détermination véridique motivera à l'accomplissement de l'obéissance, peu importe son degré, et à s'abstenir de l'interdiction, peu importe son statut, qu'il soit du domaine du haram ou du domaine du détestable. C'est comme ça que le soumis à Allah subhanahu wa ta'ala doit être avec les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit. Et parmi les points qu'il faut clarifier à ce niveau, quand les hommes de science ont détaillé les différents statuts qui composent la législation, c'est-à-dire l'obligatoire, l'interdit, le permis, le surrogatoire, le détestable, leur but, c'est que le soumis à Allah subhanahu wa ta'ala connaisse ces statuts. Et ce qui va faire que ces actes vont être valides ou pas. Ils n'ont pas voulu par ce partage, si l'acte est obligatoire, le soumis doit le faire, et s'il est une sunna surrogatoire, il le délaisse. Non et non. C'est pas ce qui est voulu par les hommes de science. La sunna doit être connue pour la mettre en application. Et non pas pour la délaisser parce que c'est une sunna. Et la sunna est quelque chose de très important dans la vie du soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour de la résurrection, à ce moment-là, on se rendra compte de la valeur de la sunna. Le monothéiste se présentera devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et la première des choses sur laquelle les comptes vont se faire, c'est la prière. Et quand il y a 10 lacunes et 10 manquements dans la prière de la personne, Allah subhanahu wa ta'ala dira aux anges, regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout. Mais il dira aux anges, regardez si mon serviteur a des surrogatoires pour combler les lacunes qu'il a dans sa prière. Et ça va être ainsi pour toutes les œuvres. Donc, d'où l'importance de ne pas tomber dans cette situation. Non, ça, c'est une sunna, tout simplement. Fais très attention à l'islam, à la sunna, parce qu'il te sera très utile le jour où plus rien ne va servir. Ni l'argent, ni le statut social, ni les parents, ni quoi que ce soit. Il n'y a que les œuvres qui vont te servir. À ce moment-là, tu verras la valeur de la sunna. À ce moment-là, tu verras que la sunna sera un grand salut pour la personne pour combler les trous qu'il y a dans ses œuvres. Ainsi, le soumis à Allah subhanahu wa ta'ala se prépare pour ce mois à accomplir les obéissances. Et parmi les obligations de ce mois de Ramadan, il y a le jeûne. Mais il y a aussi des sunnas à accomplir, que le soumis doit accomplir durant ce mois de Ramadan, qu'il ne doit pas délaisser et qu'il ne doit pas négliger durant la journée du mois de Ramadan ou durant les nuits du mois de Ramadan, comme l'accomplissement des prières nocturnes et d'autres adorations que le prophète a incité la communauté à faire, la lecture du Coran, le fait de nourrir les pauvres et ainsi de suite. Ceci est un point essentiel et très important pour l'accueil du mois de Ramadan. Le soumis se prépare à accomplir les obéissances sans faire de distinction entre le statut de celle-ci, mais il prend en considération l'acte. Et cela, notre souverain nous l'a clairement clarifié dans le verset. « Ya ayyuhalladina amanu, ati'u Allah wa rasoul » Et ceci est très bien clarifié dans le verset. « Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et au messager. » Hein? Et parmi les choses qui nous incombent d'accueillir avec le mois de Ramadan, c'est le fait de se préparer à entreprendre les bonnes œuvres et se hâter à ce niveau. Car, comme a dit Uhayb ibn al-Ward, rahimahullah, si tu peux agir de sorte que personne ne te devance vers Allah, fais-le. Si tu peux agir de sorte que personne ne te devance vers Allah, subhanahu wa ta'ala, fais-le. On se doit de se préparer à se hâter à accomplir les bonnes œuvres. Qala subhanahu wa ta'ala, wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين. Regardez ce qu'il est dit dans le verset. C'est un ordre qui vient du Souverain subhanahu wa ta'ala. Dans la traduction approximative du sens du verset, il nous est dit « Hâtez-vous vers ce qui vous fera mériter le pardon de votre Seigneur et un paradis aussi vaste que les cieux et la terre préparés pour ceux qui préservent les droits d'Allah. » Hâtez-vous. On doit se hâter à entreprendre les bonnes œuvres, et surtout dans des nobles saisons comme le mois de Ramadan. Dans quoi on doit se hâter? On doit se poser la question, dans quoi on doit se hâter? La suite, il est dans le verset. قال سبحانه وتعالى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Les choses dans lesquelles on doit se hâter à entreprendre sont dans la suite du verset. Il est dit dans le verset, ceux qui dépensent pour Allah, qu'ils soient à l'aise ou dans la gêne, qu'ils soient dans l'aisance ou qu'ils soient dans la gêne, qui contiennent leur rage et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Ceux qui, après avoir commis une turpitude ou une injustice envers eux-mêmes, se souviennent d'Allah, demandent pardon de leurs péchés, et qui pardonne les péchés si ce n'est Allah, ils ne persistent pas sur ce qu'ils ont commis, alors qu'ils savent, ceux-là auront leur récompense, le pardon de leur Seigneur, ainsi que des jardins sur lesquels coulent des rivières où ils demeureront éternellement. Combien est belle la récompense de ceux qui œuvrent pour cela. Et les versets dans ce sens-là sont nombreux dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le soumis à Allah subhanahu wa ta'ala doit se préparer à se hâter, à entreprendre les bonnes œuvres. Le jeûne, la charité, la lecture du Coran, les vocations et la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala, les prières sur le prophète alayhi salam, la bienfaisance envers autrui, tout ce qu'il peut accomplir, combien, et se doit de le faire. Et s'il peut, il ne doit pas délaisser quelqu'un, le devancer en cela. Si ses parents ont besoin d'aide, il doit se hâter à les aider. Il ne doit pas attendre à ce que son frère ou sa sœur le fasse. Si un musulman a besoin d'aide, il doit l'aider selon ses moyens et ses capacités. Et parmi les choses essentielles pour l'accueil du mois de Ramadan, le repentir sincère, il incombe au soumis à Allah de s'acquitter de tous les droits, celle d'Allah et celle d'autrui. En ce qui concerne Allah, il doit se repentir à Allah. Quant à autrui, il se doit de s'acquitter de leurs droits. Il a médisé sur celui-là, il a pris les affaires de celui-là, il a été injuste avec tel, mais il doit s'acquitter de tout, des droits des autres. Ils sont repentis. Et c'est ce qui est confirmé par le messager dans le hadith authentifié par Cheikh Nasr Din Albani rahmatullah alayhi dans l'Adab al-Mufrad. Il a dit alayhi salatu wa salam, il est tombé dans une grande perte et dans une humiliation et dans une immense humiliation celui qui vit le mois de Ramadan et il lui a pas été pardonné. Il est tombé dans une énorme humiliation, une énorme perte. Il a vécu le mois de Ramadan et il lui a pas été pardonné. Nous devons nous poser la question, pourquoi cette expression du messager alayhi salatu wa salam? Les savants ont dit, durant le mois de Ramadan, sont réunies toutes les grandes causes du pardon et tous les moyens du pardon sont réunis. Les portes du paradis sont ouvertes. Les portes de l'enfer sont fermées. Shayatin et les pires parmi eux sont enchaînés. les œuvres sont facilitées durant ce mois. Et avec tout cela, le soumis reste à la traîne. Il ne se répond pas en s'acquittant des droits d'Allah et d'autrui, alors qu'Allah a enchaîné Shayatin et les révoltés parmi les djinns. Il se soumit, oublie à son nefs, à son ego et à ses passions, et suit ses passions. Et donc il est tombé dans une énorme perte, celui qui vit le mois de Ramadan et ne lui a pas été pardonné. Pourquoi? Simple, car Ramadan c'est le mois du pardon. Ramadan c'est le mois du pardon. Et qu'on médite beaucoup, dans beaucoup de hadiths concernant le mois de Ramadan, on remarque que Ramadan est lié au pardon. Celui qui jeûne Ramadan, parfois en Allah, et espérant les récompenses d'Allah, ses péchés lui sont pardonnés. Celui qui accomplit les prières nocturnes durant la nuit du destin, ses péchés, parfois en Allah, et en espérant les récompenses d'Allah, ses péchés lui seront pardonnés. Le mois de Ramadan est lié au pardon. Les portes du repentir sont ouvertes durant ce noble mois. Donc, le soumis à Allah se doit de se préparer avec le repentir sincère. Il se repent à Allah. Il accueille ce mois de Ramadan avec un repentir sincère. Le repentir n'est pas une spécificité de Ramadan. Le repentir est obligatoire dans toutes les situations et à tout moment de la vie. Mais celui qui était dans les péchés, et Ramadan est arrivé, et il a écouté les exhortations, et les mérites des œuvres, se doit de se repentir, car le messager a annoncé cet avertissement. Il est tombé dans une grande perte, et dans une immense humiliation, celui qui a vécu le mois de Ramadan, et ne lui a pas été pardonné. Ramadan s'est écoulé, la personne est restée dans les péchés, négligeant la prière en commun, désobéissant à ses parents, coupant les liens familiaux, fumant la cigarette, le joint, et accomplissant toutes sortes de débauches. Et parmi les choses avec lesquelles on doit accueillir le mois de Ramadan, le fait d'apprendre la religion d'Allah. En ce qui concerne cette noble adoration, qui est le jeûne et les œuvres méritoires qu'il faut accomplir durant ce noble mois, parce que on arrive au mois de Ramadan, c'est une obligation individuelle d'apprendre ce que nous devons faire durant ce mois. Et chaque fois qu'on est sur le point d'accomplir quelque chose, on doit l'apprendre. Je veux partir au pèlerinage, avant de partir, je dois apprendre comment accomplir mes rites de pèlerinage. Et ainsi de suite. Je veux me marier, je me prépare pour me marier, je dois apprendre les règles du mariage, les droits de l'époux, les droits de l'épouse, les droits des enfants, et ainsi de suite. C'est pour ça que les hommes de science ont comme habitude d'enseigner la science de l'acte du moment. Ceci est cité dans les livres des Hanbalites et des Shafi'ites. L'imam Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, et ses élèves et d'autres hommes de science, quand arrive une saison spécifique, ils enseignent aux gens ce qui concerne cette saison et cette adoration du moment. Quand arrive le Hajj, ils enseignent tout ce qui concerne le Hajj. Et quand s'approche le mois de Ramadan, ils enseignent les livres concernant le jeûne, les comportements à adopter pendant le jeûne, les choses à éviter pendant le jeûne, les règles des prières nocturnes, les règles de l'ihtikaf, de la retraite spirituelle et les règles de la prière, du Eid, de la fête. Et parmi les choses importantes pour l'accueil du mois de Ramadan, la sincérité. Il faut que le soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, fasse des efforts sur lui-même pour accomplir le jeûne avec sincérité, comme il doit l'accomplir avec la foi en Allah. Car le jeûne est une œuvre des plus méritoires. Et le messager d'Allah a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans un hadith Qudsi, a dit « Toute œuvre du descendant d'Adam est pour lui, sauf le jeûne, il est pour moi, et c'est moi qui le récompense. » Ce qui veut dire que toutes les œuvres que nous accomplissons, la bonne œuvre, le hasana, est multipliée par 10. Mais les jeûnes, à l'exception du jeûne qui est réserve dans la récompense, il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui sait la récompense qu'il donne pour le jeûne. Et la récompense du jeûne est très importante et plus que ce qu'on peut imaginer. Les mérites du jeûne sont énormes. C'est pour cela que notre noble messager alayhi salam a attiré l'attention sur l'intention et sur le fait d'avoir l'espoir ou la récompense d'Allah. Les hadiths ont été cités auparavant. Celui qui jeûne par foi en Allah et espérant la récompense d'Allah, ses péchés seront pardonnés. Nous devons bien authentifier et purifier nos intentions pour toute adoration et pour le jeûne aussi. Et là, il y a un point essentiel dans l'accueil du mois de Ramadan, c'est que la personne se doit de s'éloigner de la fainéantise et de la paresse durant ce noble mois de Ramadan. Pour certains, le mois de Ramadan, c'est un mois, hein, on est bien dans ses babouches, et on se la coule douche, et on dort toute la journée. Ça, c'est pas pour ça qu'il a été instauré le mois de Ramadan. Le soumis se doit de se préparer pour se hâter à entreprendre les bonnes œuvres. Il ne doit pas être fainéant, il ne doit pas être paresseux durant cette noble saison. Et c'est le soumis fait partie des vertueux et de ceux qui entreprennent les œuvres en temps normal. Il ne doit pas se contenter de la situation dans laquelle était avant le mois de Ramadan. Mais il doit se préparer pour faire plus encore. Et qu'on médite ce hadith rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim selon Abdullah ibn Abbas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, le messager, il a dit, allez, radiyallahu anhu arda, le messager était le plus généreux des hommes et il l'était encore plus durant le mois de Ramadan. Lorsque Jibril venait à lui chaque nuit afin de lui faire réviser le Coran, le messager d'Allah était alors plus généreux que le vent porteur de pluie. Ce qui veut dire qu'en dehors de Ramadan, le messager alayhi salam négligeait aucune bonne œuvre. Mais durant le mois de Ramadan, il augmentait alayhi salam les œuvres. Mais dites la fin du hadith. Et ainsi étaient les nobles compagnons, radouanullah alayhim. Et ainsi étaient les vertus de cette communauté. Et les bonnes œuvres à accomplir durant le mois de Ramadan sont nombreuses. Hein? Et en conclusion, j'attire l'attention sur certaines pratiques des ignorants, hommes et femmes, qui accueillent Ramadan avec toutes sortes de passions et d'innovations. Certains accueillent Ramadan avec des chants et de la musique, et des anachides, soi-disant spécifiques anachides Ramadan. Et tout ceci fait partie des passions et des innovations qui sont blâmables durant Ramadan et en dehors du mois de Ramadan. Certains accueillent Ramadan par la décoration de la maison et par des effets de lumière et d'autres habitudes. Tout ceci est hérité des non-musulmans. Alors qu'on est une communauté qui ne doit pas imiter les autres. Certains exagèrent au niveau de tout ce qui est permis durant ce mois de Ramadan. Et il est malheureux et triste que certaines femmes passent la moitié de la journée dans la cuisine à préparer de nombreux plats. Ceci n'est pas haram en soi. Mais il est demandé d'être dans un juste milieu. Car le but du Ramadan, c'est l'acquisition du taqwa, et non pas le gonflement des ventres, au point de ne pas pouvoir accomplir les prières nocturnes. Le but principal du Ramadan, c'est l'acquisition du taqwa. En accomplissant les obéissances et en délaissant les tentations et en délaissant ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit. يقول عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. La traduction approximative du sens du verset, faites les provisions. Et la meilleure des provisions est ton taqwa. Et il est obligatoire aux soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et à la soumise à Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir présent à l'esprit que le mois de Ramadan, c'est le mois de l'adoration. C'est le mois du repentir et non le mois de la nourriture et des tentations. On se doit de regarder, d'observer qu'est-ce que nous avons acquis durant ce noble, qu'est-ce que nous avons acquis du noble but du mois de Ramadan. On ne doit pas rater le noble but du mois de Ramadan, car c'est le mois du jeûne, c'est le mois des prières nocturnes, c'est le mois de la descente des miséricordes, c'est le mois du pardon, c'est le mois de la lecture du Coran, c'est le mois de la charité. C'est un mois durant lequel le soumis se doit de faire les comptes avec lui-même et de voir comment il se comporte vis-à-vis du bienfait avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala l'a comblé. Malheureusement, il y a certains qui se sont préparés dès la première nuit de Ramadan à veiller toute la nuit et à dormir toute la journée. Une fois qu'il prend suhoor, s'il y a encore un reste de bien en lui, il va prier salat al-fajr. Puis il s'endort et ne se réveille que peu de temps avant le coucher de soleil. Pour rompre le jeûne et sortir veiller avec ses similaires, il n'a fait aucune prière à l'heure, ni en commun. C'est une des situations très dangereuses pour la religion de la personne. Surtout, si cela est voulu par la personne, ceci devient encore plus dangereux. Parce que s'il s'endort par fatigue ou autre, etc., exténué de fatigue, etc., hada, Allah subhanahu wa ta'ala n'impose pas aux personnes ce qu'ils ne peuvent pas. Mais si lui, c'est la voie qu'il a cherchée, veiller la nuit et dormir la journée pour passer le mois de Ramadan. Là, c'est une situation des plus dangereuses pour la personne. Et en général, ces personnes, tu les vois pas, ni dans les prières nocturnes, ni dans la prière d'Al Fajr. En général, s'ils ne s'endorment pas avec le Fajr, il va le faire très vite tout seul, pour après tomber raide. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, et que Allah subhanahu wa ta'ala les guide. Le mois de Ramadan, akhal islam, on doit être conscient que si on vit durant ce mois de Ramadan, on doit regarder autour de nous combien de nos frères et de nos sœurs ne seront pas là. Ils ne seront pas comblés de ce grand bienfait. Et que nous, on est là. Et si Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la vie, nous devons prendre en considération cette grande grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala de vivre cette énorme saison. Et d'y accomplir ce que on ne peut pas accomplir durant les autres mois. Et de profiter de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de profiter du fait de faire un checking avec nous-mêmes. Et de regarder qu'est-ce que nous avons fait depuis le mois de Ramadan dernier jusqu'à maintenant. Et qu'on doit réfléchir et regarder comment le temps il passe très vite. On dirait que le mois de Ramadan de l'année dernière, c'était hier. Et si ceci prouve quelque chose, il prouve que la fin des temps est proche. Donc il faut qu'on regarde qu'est-ce que nous avons préparé pour rencontrer Allah. Avec quoi on veut le rencontrer? Avec le fait d'imiter les non-musulmans? Avec le fait de transgresser les lois d'Allah? Avec le fait de dépasser les limites? Avec le fait de délaisser et de négliger la sunna du prophète alayhi salatu wassalam? Nous devons réfléchir, parce que la maison que nous allons habiter éternellement, c'est celle qu'on construit maintenant dans ce bas monde. C'est pas celle qu'on va construire qu'une fois qu'on est dans la tombe. Abadan. Quand on sera dans la tombe, on sera hypothéqué, entouré par nos œuvres. Soit la tombe, c'est un gouffre de l'enfer, soit c'est une des parcelles des jardins du paradis. L'un des deux. Soit ce sont les délices en attendant l'heure, en attendant le jugement, soit c'est le châtiment. Et si nous, maintenant, durant notre vie, qui construisons cette demeure vers laquelle nous allons aller dans le futur. C'est pour ça que celui qui est doué de raison ne perd pas son temps. Et la vie, elle est très courte. Elle est très courte. Elle est vite passée. Et on voit comment, Ramadan, on dirait hier, il nous voilà déjà au mois de Ramadan. Et demain, on va se retrouver à la fin du Ramadan. Mais il faut qu'on fasse très attention, avant la fin de ce mois de Ramadan, de faire les provisions adéquates et de faire les comptes avec nous-mêmes et de voir où nous sommes par rapport à notre soumission à Allah subhanahu wa ta'ala et avec quoi nous voulons rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى نجعلنا وإياكم من الذين يصومون هذا الشهر إن شاء الله إيمانا واحتسابا ومن الذين يقومونه إيمانا واحتسابا للأجر عند الله سلوه سبحانه وتعالى نجعلنا وإياكم من عتقائه من النار في هذا الشهر المبارك وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم الله خيرا.